Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants.
Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre des Dérangeants. Mon nom est Patrick Marcellet et aujourd'hui, on vous propose un menu de choix où on va accueillir entre autres un des cofondateurs de Poche et Fils, Anthony Vandramme, et dans lequel on va débattre également sur le thème de David contre Goliath ou comment se frotter à des concurrents majeurs lorsqu'on est une start-up. Et pour notamment animer ce débat, Noah Redler d'Arche Innovation est avec nous.
Bonjour Pat, tu me manquais.
C'est vrai que ça fait un bout de temps quand même. C'est vrai, t'as raison. Bienvenue. Étienne Crevier de Biogénique est avec nous.
Salut Pat!
Salut. Oh, on va ajouter ton micro. Puis là, ben, on a un nouveau visage autour de la table. Étienne, veux-tu nous présenter ton nouvel ami, s'il vous plaît?
Ah, c'est mon ami? OK, ouais. Bon, ben, t'es mon ami. Écoute, depuis le début du projet, on avait avec nous Jean-Daniel Petit, qui est de B-Side Magazine, aussi d'Abitibi & Co. GD est pas mal dans le jus, comme tout le monde, n'importe quel entrepreneur, en fait, qui a choisi de laisser son micro à son prochain pour la saison 3. Donc, on le remercie pour les deux belles saisons. Et on s'est dit, hey, est-ce qu'il n'y aurait pas un entrepreneur inspirant à Montréal qui est juste encore plus dans le jus? Oh, broum. Alors, on est heureux et fiers de l'accueillir, David Côté des Jus Loups. Salut Dave!
Hello! Bienvenue!
Merci. Je me sens comme vierge en ce moment. Mais c'est correct.
Mais tu as déjà fait, en fait, tu étais notre invité pour la saison 1, l'épisode 4. Exact. Et donc, tu as tellement eu la piqûre que tu as dit, OK, je saute et je deviens un dérangeant.
Mm-hmm. Puis le sujet, c'était mon père est riche en tabarnak. On s'entend, fait que ça fait pogner cette émission-là. C'est pour ça qu'ils m'ont rappelé.
Et tu ne seras plus vierge après cet épisode.
Tu m'inquiètes un peu, là, Noah.
Oui, c'est bon ça.
Mais David, présente-toi donc un peu quand même aux gens.
OK, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. David Côté, j'ai cofondé Rise Kombucha il y a 12 ans maintenant, en fait. Puis j'ai quitté Rise et Crudescence, que j'ai cofondé aussi, qui est une chaîne de restaurants vegan, pour être temps plein à Loop Mission, qui est une entreprise d'économie circulaire. On sauve des fruits et légumes qui sont rejetés de l'industrie alimentaire. On sauve aussi des patates de Yum Yum pour en faire du gin. On sauve du pain pour en faire de la bière. On sauve de l'huile de friture. On fait de tout, en fait. En gros, on regarde les surplus de l'industrie, puis on en crée des produits. C'est ce que je fais au quotidien.
My God.
Je suis content d'être là.
Et ce qui est assez contemporain, je trouve, comme modèle d'affaires, je trouve ça vraiment cher.
Merci. Imagine, le gars parlait de véganisme il y a 12 ans. À quel point il devait être un extraterrestre?
Ouais, non, j'étais un fucké. Le monde m'aimait pas. Le monde m'aimait pas, vraiment.
David, à l'époque où tu es venu, je pense que c'était déjà comme ça. On débute toujours nos chapitres par des coups de cœur, des coups de gueule. Et tiens, on va commencer avec toi, Noah. C'est un coup de cœur, je pense.
Bien, c'est un coup de cœur et en fait, c'est incorporé dans un coup de gueule parce que depuis où Arche a vécu plusieurs difficultés, surtout dans nos ressources humaines. L'associé que j'ai recruté il y a moins d'un an a pu annoncer son démission pour des raisons de santé. Et si cela n'est pas ne suffisait pas, un autre employé a annoncé un arrêt de travail pour des raisons de santé en même temps. On avait 8 dossiers en cours et des livrables à livrer dans les prochaines semaines. C'est dans ce moment-là, en tant que petite entreprise de consultation, quand vous ne savez pas comment vous allez tout le faire, que vous voyez vraiment ce que votre équipe peut accomplir. Ce fut un moment de réconfort pour moi de voir l'équipe se réunir pour nous aider à traverser les défis. Nous n'avons pas pris une minute de retard sur quoi que ce soit. Alors, je voudrais remercier mon équipe pour ce coup de cœur.
OK, fantastique. Donc, c'est ton équipe qui est le coup de cœur, finalement.
Ben, c'est ça.
OK, magnifique. Ouais, c'est pas mal un beau patron. Étienne, toi, tiens.
Mais écoute, comme tu sais, Pat, moi, j'ai toujours beaucoup d'aplomb dans la vie. Mais j'aimerais faire mon coup de cœur pour le programme Aplomb. Donc, c'est un parcours entrepreneurial qui est propulsé par...
Il y avait un jeu de mots ici.
Ah, écoute, veux-tu que je refasse? T'es sûr?
Je peux te l'expliquer. Compris, hein? C'est bon, ça va aller.
Mais en fait, Aplomb, c'est un parcours entrepreneurial de la Ville de Montréal et des manufactures et exportations du Québec et SNDIS. C'est le but, c'est d'avoir la Dream Team pour propulser 20 PME de Montréal à l'international qui sont soit manufacturières ou exportatrices. Et donc, j'aimerais inviter les auditeurs qui pensent qu'ils pourraient fitter dans le programme à appliquer à aplomb.ca. Ils ont jusqu'au 21 novembre pour lancer leur candidature.
Fantastique. Merci beaucoup,
David. C'est un de ces programmes qu'il faut avoir 35 ans et moins?
Non, je pense qu'on est capable d'être accepté.
David, est-ce que tu débutes ta collaboration avec nous autres avec un coup de cœur ou un coup de gueule?
Oui, un coup de cœur. Ben oui, il faut commencer doux quand même. Moi, j'ai eu mon coup de cœur hier matin dans l'auto. J'ai ouvert la radio, puis c'était Paul Arcand.
T'es pas en Bixi?
Non, j'étais dans les Laurentides, là, j'étais loin. Oui, j'avais une bonne raison. Puis, j'en revenais pas. Moi, il y a 12 ans, je me battais pour... Juste le terme gaz à effet de serre, le GES, les gens pensaient... Quand j'en parlais, les gens savaient pas c'était quoi. Puis, on parlait de la viande rouge hier, puis on parlait de la réduction de la viande rouge, puis il y avait un débat là-dessus. Puis, les trois animateurs de radio, puis on s'entend quand tu es un animateur de radio, il faut que tu sois sceptique, puis souvent, tu remets en question certaines idéologies. Puis les trois animateurs s'entendaient pour dire qu'il fallait réduire sa consommation de viande un petit peu, puis ça fait... Moi, ça fait... Pendant 10 ans, je me suis battu pour ça, pour me traiter un peu d'extraterrestre. Oui. Puis là, ça y est, tout le conscient collectif a changé. J'ai eu des frissons sous mes bras, puis j'ai un coup de cœur pour le conscient collectif en général.
Mais en même temps, il va y avoir des études comme quoi, finalement, la viande peut-être serait pas si dommageable. Oui,
mais justement, c'était exactement là-dessus. C'était l'étude du scientifique qui est sortie en Nouvelle-Écosse. Puis tout le monde s'entendait à la radio pour dire que l'étude valait pas grand-chose, en fait, puis que... Pour vrai, si tu réduis ta consommation, c'est sûr que tu as moins d'impact environnemental.
Ouais, Patrick, retourne chez vous, là.
Non, tu sauras que, tu sauras que ma fille est végétarienne puis qu'elle m'influence en masse.
Oh!
Oui, quand même. À 14 ans, c'est pas si pire. Hey, Étienne!
Il y a quelque chose. Il se passe quoi avec lui ce matin?
Ouais, je sais pas.
Je me réchauffe.
Non, je te dirais que t'es assez chaud, merci. Bon, on est prêt à commencer?
Oh, let's go!
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le Wi-Fi d'un café, manger du beurre de peanut. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurpreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 $ et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte info@commercialfuturpreneur.ca.
Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec, grouperp.ca.
Je me souviens très bien quand il est venu à la radio, il y a quoi, 4-5 ans environ, nous parler de son projet de T-shirt. Fébrile, confiant, correct, je dirais, mais surtout déterminé. Et aujourd'hui, donc, mais surtout 500 000 chandails vendus plus tard, il est avec ses associés à la tête d'une entreprise qui emploie 30 personnes avec un chiffre d'affaires de 3,5 millions de dollars. On accueille un des fondateurs de Poche et Fils, Anthony Vandramme, est là avec nous aujourd'hui.
Bravo!
Regarde, première des choses, c'est même pas une question, Anthony. Bravo.
Merci. Merci beaucoup. C'est
fait que l'entrevue est finie maintenant.
Exact.
Merci de t'être venu.
Non, mais c'est quoi la différence avec le gars plein de rêves, mais un petit peu insécure que j'avais rencontré, puis celui qui est devant moi aujourd'hui?
Bon, déjà 5 ans. Hein, fait qu'au début, c'est sûr qu'on se lançait dans cette aventure-là. Fait que je pense que c'était de l'inconnu. Fait que c'était à tous les jours de quoi de nouveau qu'on apprenait. Fait que oui, c'était quand même stressant. Même juste le fait d'avoir une entrevue radio ou de pouvoir parler de notre histoire, c'était challengeant, c'était stressant, c'était de l'inconnu. Aujourd'hui, ben on a appris sur le tas, on s'est entouré, on a fait des bons coups, d'autres moins bons. Puis je pense que c'est ça qui a bâti un peu l'entreprise puis notre confiance.
Puis quand est-ce que le choix de la moustache est venu dans l'équation?
La moustache, c'est un choix stratégique, en fait.
Ah, OK, ça veut tout dire.
Oui, hein? Exact, c'est ça. C'est bon.
Le brand est là, ouais. Le brand est là.
Mais tu l'avais avant Kevin DeRodé ou après Kevin
DeRodé? Oui, ben je pense que c'est moi qui l'ai influencé. Il ne sait pas, là.
Écoute, moi, j'ai une question pour toi, Anthony, pour d'entrée de jeu. Tu as été un joueur des Carabins à l'université, tu as parti Poche et Fils alors que tu étais au HEC. Puis, ultimement, l'histoire est quand même assez organique de comment vous avez lancé le brand. Est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes entre avoir une équipe de football autour de toi puis l'équipe d'une start-up aujourd'hui?
Oui, bien, définitivement. En fait, j'aime ça faire des parallèles. Dans le fond, au foot, on a tout notre rôle. Tu sais, les joueurs de ligne...
Puis toi, c'est quoi ta position?
Moi, j'étais receveur de passe.
OK. Ouais. Je vais faire comme si je sais c'est quoi. Ouais.
Mais dans le fond, le truc, c'est souvent les mots « receveur de passe
ben ». Oui.
Des fois, c'est l'indice là, qu'on donne.
Même moi, je comprenais. Même moi, Étienne, je comprenais.
Mais tu sais, les O-line, ils bloquent. Le QB, il faut qu'il lance. Les receveurs, ils attrapent. Tout le monde a son rôle, puis dans le fond, faut que tu mettes un peu ton ego ou ta personne de côté pour quelque chose de plus gros. Donc, pour un objectif qui, nous, était de gagner la Coupe Vanier ou de gagner le match du week-end, bien, c'est la même affaire dans une entreprise. On a des objectifs plus gros, puis chacun a son rôle, puis il faut que les autres aient confiance à tout le monde pour que ça fonctionne. Fait que le joueur de ligne, il touchera pas à la balle de l'année, là, il touchera pas au ballon, c'est pas ça sa job, mais si lui, il bloque pas, ben personne va y toucher. Fait que c'est la même chose que les gens à l'entrepôt, les gens en production, les gens aux ventes, les gens au marketing, ben, tout le monde a son rôle, c'est primordial, puis c'est ça. Fait que ça, c'est un des parallèles à faire.
Puis ça a été vraiment l'équipe des Carabins aussi qui a été tes premières commandes, tes premiers clients. Ouais.
Ben oui, exactement. Fait que nous, ça a commencé un peu dans le vestiaire. C'était eux, mes amis proches, c'était eux que je côtoyais plus que 30 heures par semaine. Fait
qu'ils filaient cheap de pas t'acheter un t-shirt pour t'encourager.
Non, mais en même temps, c'est des étudiants qui n'ont pas full d'argent. Fait que c'était quand même un gage de « OK, ils sont prêts à faire la dépense ». Puis c'est aussi là que j'ai rencontré Nick, cofondateur. Ça a quand même parti du vestiaire.
Quand on s'est parlé tout à l'heure, puis nous, vu de l'extérieur, on parlait de 500 000 t-shirts vendus. Ça a l'air d'une success story incroyable. T'sais. Et tout à l'heure, tu me disais, hey, c'est depuis 5 ans, c'est des montagnes russes. Ouais. Des hauts, des bas. T'sais. Des bas, ouais?
Ouais, ben oui, parce que comme n'importe quoi, on se frappe à des murs où on a des challenges, que ce soit... Des fois, c'était des défis de croissance. Là, quand la première année, on a vendu 10 000 T-shirts, la deuxième, 100 000. Ben, déjà là, il faut embaucher. Il y a des défis de liquidité. Fait qu'avec la banque, il y a des défis de production ou de structurer l'équipe. Puis après, ben tu lances des trucs, tu essaies des nouvelles affaires. Puis on a lancé plusieurs produits. Certains ont marché, d'autres non. Fait que tu te frappes un peu à cette réalité-là. C'est toujours de retourner à table à dessin puis d'essayer d'apprendre de tes erreurs. Mais oui, je pense que dans n'importe quelle histoire d'entreprise, tu atteins des plateaux puis tu apprends à chaque fois. Fait que c'est un bumpy ride un peu.
Vous, votre brand, toute votre affaire, c'est de mettre des poches sur des chandails. T'as pas l'impression que la mode, à un moment donné, va dropper puis il va falloir que vous fassiez autre chose?
Bien, on n'est pas à l'abri de ça. C'est une super bonne question. Je pense que ça fait 5 ans aussi qu'on se fait dire ça puis que nous-mêmes, on se le dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, les chiffres mentent pas. On continue à en vendre. On en vend plus en ligne maintenant qu'on en vendait avant. C'est beaucoup plus l'essence de la marque qu'on vend avant le produit.
Puis cette essence-là, y a-t-il une mission derrière, mettons, en une phrase? Ouais. C'est quoi?
Bien, on l'a défini en anglais, puis on veut la traduire, évidemment. Mais c'est un processus qu'on a fait accompagné d'une personne anglophone. Puis c'est « to create joyful human connection ». Aussi, moi, j'aimerais dire « pimenter le quotidien des gens ». Fait qu'on veut te faire sourire, on veut te surprendre, on veut te faire rire.
Mais je me demande, pour toi, Poche et Fils, que c'est un projet à long terme? Est-ce que tu vois ça plus comme un tremplin vers d'autres choses?
Non, c'est un projet à long terme. Je suis all-in là-dedans, puis je suis content de pouvoir compter sur une équipe qui est all-in aussi, des gens dédiés. J'ai du fun à le faire. Je suis content, je suis chanceux de pouvoir gagner ma vie avec ça, puis de partager ça avec 30 personnes. Fait que c'est long terme, c'est pas... Je le vois pas comme un tremplin en ce moment.
Alors, mais c'est quoi les facteurs de succès pour vous? Pourquoi est-ce que Poche et Fils deviennent si grands si rapidement? Est-ce que c'est parce que tu étais sur l'œil de dragon?
Bien, c'est sûr que ça l'a aidé. En fait, au début, on y allait avec des stratégies qui coûtaient pas vraiment cher. Fait qu'on donnait des chandails à beaucoup d'humoristes de la relève. On a un ton ludique puis humoristique. Fait qu'on donnait des chandails à ces personnes-là. Ils nous invitaient sur les shows de radio. On a rencontré Philippe Bande. Il nous a vraiment aidé. Jay du Temple aussi. Après, c'est sûr que le passage au dragon, ça l'a été gros. C'est vu par 1 million de personnes. Fait que,
c'est ça.
En une journée, en 4 heures, on a fait un mois de vente après le passage à l'émission. Ça l'a quand même donné un bon tremplin.
Anthony, quand je vous avais vu il y a 5 ans sur Ferra, vous étiez toi puis deux chums,
Nick et Alex, exact.
5 ans plus tard, les affaires, c'est-tu tough de garder ses amis dans ce temps-là?
Oh, bonne question.
Les amis en affaires?
Ouais. Ben, je connais pas l'histoire. Ouais, êtes-vous encore ensemble? Je sais même pas, je t'avoue.
Ben là, disons, récemment, Alex n'est plus dans l'actionnariat, mais ça s'est fait par la force des choses. Admanon, on est trois amis qui partent ça, trois qui ont plutôt un profil d'entrepreneur généraliste, on veut, puis plus on grossit, plus il faut avoir des rôles spécifiques avec des besoins différents au stade de l'entreprise. Fait que ça s'est fait comme ça. C'est tough, là, pour vrai, c'est vraiment tough parce qu'il faut que tu sépares... l'amitié puis la vie personnelle, la vie professionnelle, puis c'est des décisions qui doivent être prises à certains moments. Mais au-delà de juste l'actionnariat, tu sais, moi, je travaille en ce moment, on a embauché mon frère. On a déjà embauché d'autres personnes plus proches aussi, des amis et tout. Moi, je trouve que ça a quand même un beau upside, là. C'est cool de pouvoir rentrer puis travailler avec du monde que tu apprécies aussi à l'extérieur. Mais c'est toujours tough, là, tu sais, quand ça va pas moins bien ou quand il faut prendre des décisions Absolument. Plus difficiles, c'est tough.
Je rebondis ce que tu dis. Ouais. J'ai engagé mon frère dans Biogénique, puis tu sais, mon frère, c'est un programmeur. Puis on dirait que j'étais toujours comme, là, je l'impose-tu à l'équipe, Colin? Tu sais, comme, on dirait que je fallait que je je le protège, lui, des autres, puis les autres de lui. C'était un peu awkward. Mais j'aimerais ça, juste, moi, je taquine beaucoup Marie-Philippe pour dire qu'elle travaille dans la guenille avec Chic Marie, fait que je peux pas m'empêcher de vouloir te taquiner pour dire comme tu vends de la guenille, ouais, au fond. Ouais. As-tu l'impression de travailler dans le secteur de la mode avec Poche et Fils?
Ben oui, c'est clair, parce que dans le fond, on vend du vêtement, puis je pense que c'est, ça fait longtemps que le...
Puis t'engages des stagiaires de Cégep Marie-Victorin qui font leur technique en mode ou...
Ouais, ben la majorité des couturiers et couturières dans l'équipe, parce que dans le fond, nous, on coud les poches à Montréal à notre atelier de couture, fait qu'on emploie entre 6 et 12 couturiers et couturières, tout dépendant le moment de l'année, mais eux, ils graduent beaucoup de... ou sont étudiants ou gradués des écoles de mode où ils apprennent à... non seulement à confectionner du vêtement, mais... ouais. ben ils sont vraiment plus qualifiés que ça. Là. Ils font des trucs en cuir, hein, des fois en fourrure, d'autres trucs. Ben, c'est beaucoup plus poussé. Là,
c'est une question
là-bas.
Plus à mon domaine. Nous, tu sais, moi, je recycle des déchets, puis je trouve une deuxième valeur, une deuxième vie aux choses. Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets dans cette industrie-là que tu pourrais recycler puis faire quelque chose avec?
Évidemment que l'industrie du vêtement, c'est pas la plus écolo qui existe. Les progrès qu'on est capable de faire, c'est dans le choix des fibres, c'est dans où on s'approvisionne. Mais au niveau du recyclage, c'est plus peut-être d'essayer d'éliminer le surpackaging. Fait que, tu sais, quand les t-shirts arrivent, ils sont tous dans des sacs individuels ou non. Fait que nous, c'est des exigences qu'on demande, puis qu'on travaille avec nos fournisseurs pour que ce soit le plus simple possible.
Il y avait été question, Anthony, à un moment donné, que vous ayez vous établir en France.
Oui, ouais, ouais, exact.
Oui, non, c'est sur
non, mais regarde, c'est un autre apprentissage. Puis on avait quand même investi des sommes considérables là-dedans. Je pense que c'était loin des yeux, loin du cœur. Je pense qu'il aurait fallu encore mettre plus d'argent, dans le fond, si c'était pas d'y aller à moitié. Je pense qu'après, on a appris, on va essayer de sécuriser ici, d'être bon ici, de confirmer le modèle avant de pouvoir s'étendre ou expandre.
On va-tu avoir un poche face?
Ouais, on veut. C'est dans les plans d'ici 2021 de percer le marché.
Plus anglophone.
Canada, ouais, okay. Anglo, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, avec sans doute une autre stratégie, une approche quand même. Hyper local avec les références culturelles de chaque endroit, comme on fait au Québec. Mais clairement qu'il va falloir s'entourer des bonnes personnes parce qu'on va être trois coups en arrière si on essaie de le faire nous-mêmes
de Montréal. Comment est-ce que tu protèges ton brand quand tu vas à l'international? Quand tu es à Montréal, tout le monde te connaît, dit « Regarde, je ne peux pas concurrer avec Anthony », mais n'importe qui peut mettre une poche sur un T-shirt et dire « Cool, je suis poche et crew » et voilà.
Ah ouais. Non, tu as raison. C'est difficile. Je pense que ça reste d'être... de toujours être clever au niveau des idées. Mais tu sais, même ici, on a de la compétition. On vend chez Simons. Simons vend aussi des T-shirts à poche. Puis c'est un de nos partenaires d'affaires. Il y a d'autres marques aussi qui en font, en fait. Nous, c'est ça. Fait que tu sais, la compétition est la même quand même ici, je pense. Peut-être qu'on jouit d'une notoriété qui nous aide, mais... c'est ça. Qu'ailleurs, ça va être d'essayer d'aller chercher les bons référents culturels puis de s'associer aux bonnes personnes.
C'est quoi les trucs que tu as pour toujours rester connecté aux besoins de tes clients puis toujours trouver, comme tu dis, le trois coups en avance au lieu des trois coups en arrière?
Ben, je dis ça. Je pense qu'on le fait pas encore assez bien. Je pense qu'on met pas encore assez le client au centre de nos décisions. Le poste au service client est hyper important. C'est le premier contact qu'on a avec eux. C'est aussi devoir plus aller souvent en boutique, sonder les gens qui achètent. Des fois, on veut faire des trucs qui nous plaisent, nous. C'est une bonne chose, mais il faut surtout se poser la question, la personne qui achète.
Tu disais tout à l'heure, David évoquait le fait que ça fait quand même, ça ne dure pas éternellement non plus une mode comme celle-là. Tu as évoqué le fait que déjà, vous avez commencé à être copié. Est-ce que le branding de Poche et Fils va rester des T-shirts? Est-ce que vous allez peut-être aller, je ne sais pas, des robes? Fouille-moi.
Ouais. Bien, je disais tantôt qu'on avait lancé un paquet de produits. On avait lancé des bas, des boxers, des chemises, des casquettes, tout avec nos motifs qu'on reprenait, des motifs ludiques. Là, pour les prochaines années, on veut couper ça puis se concentrer sur les produits à poche, mais il y a moyen d'innover là-dedans. Fait que oui, tu as parlé de robe. On a lancé une robe cet été. Okay. Fait que c'est comme un T-shirt robe, en fait, qui a été le meilleur vendeur dans ce qu'on a sorti. Ensuite de ça, on a notre manche longue. On sort des nouvelles couleurs. On va sortir des camisoles à l'été prochain. Fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup de place à innover, que ce soit dans... Est-ce qu'on rajoute un imprimé en plus de la poche? Est-ce qu'on change la forme de la poche? Est-ce qu'on fait d'autres trucs? mais se concentrer sur dans quoi on est bon, qui est encore 85-90% de nos ventes.
Il y a 2 ans, vous avez fait une campagne avec Cozy. On avait la même agence biogénique qui poche et fils. Puis le vidéo avec King Melrose, que j'invite tous les auditeurs à aller écouter, qui était vraiment un succès de
campagne.
Montréal
en poche.
Montréal en poche. C'est quoi la prochaine stratégie? Puis en même temps, comment c'est venu l'idée de Montréal en poche? C'était quoi la prémisse derrière ça?
En fait, on trouvait que le sentiment d'appartenance des quartiers à Montréal était vraiment fort. Fait qu'on s'est dit, on va créer une poche pour chaque quartier. Puis, dans le fond, au-delà de ça, on voulait, avec Potluck, qui est une autre entreprise montréalaise, c'est 2 cofondateurs français, qui ont, dans le fond, eux, ils mettent en valeur aussi les différents quartiers parce qu'ils font comme des études de marché.
Les commerces de proximité.
Pour savoir quel commerce va s'installer là. Donc, en collaboration ensemble, on a dit, bon, on va mettre les quartiers de l'avant. Rien de mieux qu'une poche pour comme rep ton hood, si on veut.
Fait ça a pogné?
Ça a vraiment pogné. Ça a, ça a eu des centaines de milliers de vues. Ça nous a fait connaître aussi. On a fait le tour des radios après avec ça.
Vous avez un peu scoopé avec votre vidéo parce qu'on l'a lancé juste une semaine avant vous. Anthony, tu parles ouvertement de tes problèmes passés, tes excès. Tu as une personnalité excessive. Ça t'a sûrement peut-être aidé comme entrepreneur. Peux-tu nous en parler?
Je sais pas d'où ça part, en fait, mais je sais que... intérieurement, c'est sûrement une peur d'avoir honte qui me force à vouloir essayer d'être performant dans tout ce que je fais. Puis ça m'amène à m'oublier des fois ou à mettre soit ma santé ou mes relations de côté. Puis ça me nuit parfois. Fait que ça soit de trop m'entraîner. Là, tu sais, c'est arrivé là, que j'ai fait 15 sports ou 15 entraînements en une semaine. C'est pas normal. Puis là, c'est ton entraîneur qui dit: Chris, rentre chez vous, qu'est-ce que tu fais? C'est pas, t'sais, ou de trop travailler, de faire 70, 80 heures, puis qu'à un moment donné, t'es irritable, puis tu prends des décisions un peu douteuses, mais c'est parce que tu veux absolument pas échouer.
Il y a juste ce côté compulsif, comme on dit.
Ouais, exactement. À l'école, c'était pareil, de vouloir avoir des bonnes notes, rien que pour le fait de pas perdre. C'est pas sain, là. C'est pas parce que t'aimes la matière, c'est parce que. Puis tu t'en rends pas compte, puis en plus, c'est qu'il y a un côté. Bien vu d'avoir soit des bonnes notes ou de travailler fort, si on veut.
C'est comme une addiction qui est bien vue par la société.
Ouais, exactement. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ta fuite. Tu oublies de te connecter avec ton vrai monde. Fait que j'ai la chance d'avoir de suivre une thérapeute vraiment, vraiment cool qui m'aide beaucoup, qui m'aide à me questionner sur moi puis à recontacter un peu ce monde-là. Puis à dire, Christy, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu te dis pas en dedans si t'es après fuir là-dedans. Ça fait, mettons, 2 ans et demi que je ne consomme pas d'alcool. Pas parce que j'avais des problèmes d'alcoolisme, mais clairement que j'aurais peut-être eu un tempérament ou des comportements qui auraient pu tendre vers ça. Je suis content d'avoir coupé ça peut-être avant que ça puisse avoir d'autres effets. Ça
tu voyais la pente, là, puis tu te dis, je vais pas...
il m'est arrivé surfer, certains événements où j'avais pris des décisions de marde là, avec ça. Fait que j'ai préféré... couper ça, mais c'est quand même rien que la pointe de l'iceberg. Souvent, ça, c'est bien plus gros que ça. Ça veut dire que, encore une fois, tu t'avoues pas des trucs où t'es pas capable de contacter ça. Fait que aujourd'hui, j'écris d'un cahier le matin. Hein, si j'essaie de mettre mes émotions en mots, de mieux les comprendre, puis d'essayer de garder ce ballon-là. Mais tu sais, autant que l'excès, il y a des beaux côtés. Autant que quand ça devient dans l'ego, autant que quand tu juges trop, quand tu te juges trop, ben là, ça devient négatif. T'sais. C'est quand que le leader devient contrôlant. C'est quand que la personne qui veut avoir du fun veut trop d'attention. C'est quand que la personne qui veut être en forme devient un peu bigorexique puis too much. T'sais, c'est toujours cette mince ligne-là.
Tu viens de m'apprendre le mot bigorexique, je connaissais pas ça.
Google it.
Tu dirais que tu es un meilleur entrepreneur aujourd'hui parce que tu as fait ce processus-là, tu le recommandes aux autres de...
Ben, tu sais, j'ai pas la... Non, est-ce que je le recommande? Je pense que l'introspection, hein, tout le monde peut en bénéficier.
Non, ça c'est tellement ésotérique.
J'ai un... En fait, c'est... J'ai juste un pur noisetier, fait que... Oui, je pense que je suis peut-être une meilleure personne ou une meilleure version de moi-même, puis j'essaie d'amener ça aussi à l'équipe, puis leur demander comment ils vont, puis de pousser ça, osez vous rendre vulnérable, puis puis de parler de comment vous vous sentiez, parce que je pense que c'est important pour la collaboration ensemble.
Anthony Vandramme, cofondateur donc de Poche et Fils, tu es venu ici avec moi en studio pour tes premiers T-shirts. Mm-hmm. Tu reviens ce soir pour ton 500 millième.
Yes.
Est-ce qu'on s'entend? C'est une promesse que tu vas venir nous...
au million.
Tu vas venir nous faire tirer le millionième T-shirt.
Mais oui, mais ça, ou le 750 millième. Fantastique. Ça va faire plaisir.
Bravo, bon
merci
succès.
Beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci. C'est vraiment une belle opportunité.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants!
Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP, la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca.
Les dérangeants!
Les dérangeants.
Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
On est de retour avec les dérangeants et avant d'attaquer le débat, c'est la question dérangeante. Je veux savoir, messieurs, dans chacune de vos business, de quoi êtes-vous le moins fier?
Mais je vais me lancer en premier. Écoute, de quoi je suis le moins fier? Écoute, je pense que ça serait de pas avoir fait confiance assez à mon équipe et me faire confiance en même temps. Je pense que le syndrome de l'imposteur est omniprésent. Quand moi, j'ai parti Biogénique, j'avais 23 ans, puis tout le monde autour de moi avait la vérité infuse, sauf moi puis sauf mon équipe. Puis c'était vraiment, finalement, on était à toutes les tendances, les saveurs du mois. Quelqu'un nous disait, OK, allez pas dans le service, développez un device. Puis là, comme, OK, oui, c'est la nouvelle, on fait ça, on fait ça. Fait que finalement, la quantité de temps, d'énergie, d'argent qu'on a dépensé à juste pas s'écouter à la fin pour dire comme, non, on fonce, là, puis on connaît nos affaires. Fait que, ouais, je suis vraiment pas fier d'avoir perdu au moins 2 ans de ma vie à pas me faire confiance.
Ah oui, OK, à ce point-là quand même. Noah?
Pour moi, de temps en temps, dans une boîte de conseil, il faut prendre des contrats qu'on aime moins, on peut dire. J'avais commencé Arch Innovation en disant que je vais juste travailler pour des clients et travailler sur des mandats qui m'intéressent, que je pense va avoir une valeur, un impact dans la société. Mais à la fin du mois, le cash flow, on arrive, il y a des salaires à payer, le loyer à payer. Et des fois, il faut juste accepter un contrat moins intéressant et peut-être des fois que... on ne partage pas les mêmes valeurs avec le client. Alors, ça s'est passé 2 fois déjà dans ma carrière chez Arch et ça me dérange. Ça me dérange.
Ah oui, quand même, OK. Mais ouais. Tu comprends pourquoi tu le fais quand même, tu sais?
Ah, pour bien manger, oui.
C'est ça. David, toi?
Tu sais, Loup, notre raison d'être, c'est de réduire le gaspillage. On sauve les aliments puis on sauve les surplus de toutes les industries. On travaille avec les grosses compagnies out there puis on prend leurs surplus. Puis on explique aux gens puis aux entreprises que tu vas faire un bottom line, un profit net plus élevé si tu t'occupes de tes déchets, en fait, puis si tu les revends à quelqu'un qui est alias nous. Puis quand on a parti le projet, on donne une pulpe à une entreprise qui fait des gâteries pour chiens, fait que la boucle est bouclée puis il n'y a pas de déchets. Mais la compagnie de gâteries pour chiens ne grandit vraiment pas aussi vite que nous, on grandit. Fait que, en fait, je suis un peu comme un cordonnier mal chaussé. Je prends les déchets de toutes les entreprises pour en faire quelque chose, sauf que moi, je régénère de la pulpe grave. Puis j'ai pas encore trouvé
quoi faire
le
avec.
Temps pour faire de la R&D pour gérer ma pulpe. Parce que j'ai tellement d'appels de monde dans l'industrie qui me disent « Hey, moi, je jette ça », que je travaille sur leur rebut à eux. Mais ce qui fait que ma pulpe, à moi, en fait, je l'envoie au compost. Puis je suis pas fier de ça, pas en tout temps.
Étienne, tu as évoqué tout à l'heure les débuts, tes débuts avec Biogénique à 23 ans. Ce qui nous amène vers le débat d'aujourd'hui. David contre Goliath. Je suppose que, en tout cas, normalement, quand on débute une start-up, forcément, on est un petit David, on est une petite entreprise. Et assez régulièrement, dans notre champ d'activité, dans notre domaine, il y a déjà des gros joueurs qui sont là. On se lance. Commencez peut-être par les avantages d'être un petit joueur au départ. Il doit y en avoir comparativement à des gros joueurs.
Bien, chaque Goliath a déjà été un David. Puis moi, je suis content qu'on ait David sur le panel avec nous aujourd'hui parce que là, je t'ai...
T'as l'air de Goliath, tout le monde.
Oh, écoute, 210 livres de tendresse. mais un David, pour moi, c'est... Imaginez un drone. Tu sais, c'est léger, ça se contrôle assez facilement après un peu de pratique. Ça prend des images, des photos super instagrammables. C'est sexy devant la visite. Mais ça va déranger les avions de d'Orval. On ne sait pas trop comment les gérer, avec quelle loi s'occuper d'eux autres. Mais ça brise super facilement. Tout le monde peut s'en acheter un avec un peu d'argent. Fait que, David, ça a plein d'avantages, mais ce n'est pas un bateau de container qui peut faire face à des tempêtes sur l'océan puis quand même juste arriver indemne. Donc, c'est le but pour moi de David, faut pas perdre ça. T'sais, n'importe quelle entreprise, puis tu le vois énormément, les entreprises qui perdent cette vélocité-là. Puis aujourd'hui, dans le Fortune 500, 88 % des entreprises qui étaient là il y a 20 ans ne le sont plus aujourd'hui parce que justement, ils se sont fait bypasser par des Amazon, par des Facebook, par des Google qui étaient des David puis qui sont rendus dans le Fortune 500 aujourd'hui.
Bon, on poursuit avec les avantages. Noah, y en a-tu des avantages comme ça?
Ben oui, absolument. Je dirais que d'être une David, c'est d'être plus agile, d'être capable de prendre des décisions plus rapidement et de prendre plus de risques. Mais je vois aussi beaucoup de difficultés d'être David. Chaque jour de la semaine, comme une petite boîte de conseil en stratégie, on se bat contre, comme on l'appelle, les Big Four, tous les grands boîtes de conseil. Et c'est, moi, j'ai zéro marge d'erreur. Si une des grandes boîtes de conseil, une McKesson de ce monde, il fait une erreur sur un mandat, il ne réussit pas à gagner un contrat, bien, c'est la vie. Ils vont passer à d'autres choses. Mais moi, si je perds 3 contrats consécutifs, j'ai des grands problèmes. Mm-hmm. Alors, je suis toujours... Et je veux rester petit. Je ne veux pas devenir une méga entreprise où j'ai des bâtiments à 20 étages et je dois remplir ça avec des personnes. Et parce que ça va se faire qu'on perd qui nous sommes comme marche. Une petite entreprise qui pense à un modèle décentralisé. Mais en même temps, j'ai ce stress de jour à jour, de juste dire que, regarde, si moi, je tombe dans la rue, je suis happé par un autobus, c'est la fin de mon entreprise. Les collègues n'ont pas cette réalité.
Mais en ce sens-là, est-ce que l'objectif premier, votre objectif à vous autres, d'une petite entreprise ou d'être David, là, est-ce que c'est pas de devenir Goliath à un moment donné ou peut-être même d'être absorbé, d'être acheté par un Goliath?
Bien, c'est l'avantage d'être un David, c'est que tu peux te dire que si tu n'as pas les moyens ou l'expertise pour pouvoir grandir alors que tout le monde veut que son entreprise grandisse en temps, tu te dis que tu peux être peut-être acheté à un moment donné. Fait que les David ont besoin des Goliaths, ça c'est sûr, autant pour avoir des exemples, mais aussi pour avoir un out possible éventuellement pour être acheté. Mais il faut comprendre que l'ère aujourd'hui est plus au David qu'au Goliath. En fait, l'ère des années 80-90, c'était vraiment l'ère des Goliaths. C'était l'ère des billboards. La pub se faisait sur l'autoroute ou la télé, ou à radio, mais...
Ça coûtait une fortune.
Ça coûtait une fortune, c'était cher. Le monde en pub, ils savent, il y a 25 ans, quand ils vendaient une pub, même à McDo, c'était 1,5 million. Aujourd'hui, c'est 150 000. La même pub, on s'entend, parce que...
C'est 15$ sur Facebook,
ouais,
là.
C'est pas cher, il y a des médias sociaux, etc. Puis c'est aussi que les gens voulaient pas savoir qui était derrière les entreprises avant. Il y a 15 ans, 20 ans, ma mère, là, elle voyait un billboard du quelque chose. Tout ce que tu avais besoin de dire, c'est que ce produit est bon là, il est fonctionnel, puis les gens l'achetaient. Aujourd'hui, tu veux savoir qui est derrière, c'est-tu petit, sont-tu local, etc. Fait que, oui. Puis on le voit avec les microbrasseries, là, les Molson puis les Labatt de ce monde se font rentrer dedans bien raide par des centaines de microbrasseries au Québec, puis partout en Amérique, en fait, qui reprennent la tablette puis qui reprennent la place parce que c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. C'est ça qui est génial, en fait.
Je me rappellerai.
Les gens veulent ça.
David, tu vends des jus locaux, mais à la fin de la journée, les bouteilles, les verres, on n'a pas de sable au Québec. Alors, tout vient d'ailleurs dans ce monde. Et si on va battre contre quelqu'un, c'est parce qu'ils ont permis, ils ont créé un marché qu'on peut atteindre plus facilement. C'est quelque chose qu'on prend avantage. Eux, ils ont investi à préparer le terrain. Et maintenant, c'est notre tour de dire, regarde, on peut mieux faire. Et c'est le problème avec des Goliaths de ce monde, c'est qu'ils ont la difficulté à innover et garder ce même esprit très ouvert. Alors, ils laissent David comme nous et les David comme toi, David.
Oh!
de juste monter où ils vont perdre du market reach.
Mais donc, ce que je comprends, puis en même temps, là, donc, les grosses entreprises, les multinationales, les Goliaths de ce monde ont besoin, quelque part, de petites entreprises de David pour rester réveillés, hein, quelque
ben
part.
Oui, 150%. Puis souvent, ils vont investir dans les petites startups. Souvent, je peux le dire, je pense pas que ça les dérangerait. Je parlais au président d'AgroPure il y a pas longtemps, puis il me dit, David, à AgroPure, je peux pas sortir un nouveau produit en 6 mois. C'est impossible. C'est minimum 2 ans.
C'est fou,
comme ça chez Kraft aussi, parce qu'ils sont tellement gros, il y a tellement de monde, il y a un gros board, ça implique beaucoup de gens, il y a beaucoup de règles, il y a un gros... Tu sais, ils ont un comité, ils ont un aile d'avocats qui travaille juste pour eux. Fait que sortir un produit, ça coûte cher, ça prend du temps. Puis en plus, ils payent des listing fees de fou. Ça leur coûte plus cher de rentrer sur les bannières que moi quand ils sortent. Tu sais, fait que l'idée, c'est de s'associer avec les grands aussi. Moi, j'ai jamais considéré que, peu importe mes business à Rise ou à Loop aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler contre Goliath. J'ai l'impression de travailler avec Goliath. Je veux dire, quand L'Oblast ou Costco me dit « j'achète tes jus », je suis vraiment content. Parce qu'avec eux, je le sais qu'il va y avoir du volume, ça va marcher, puis que mon David va pouvoir prendre du poids un peu. Là,
puis toi, Dave, y a-tu un Goliath que tu aurais refusé de travailler avec? Mettons un Nestlé ou quelqu'un de ce monde?
Non, ouais, j'ai eu un appel de Kraft il y a 3 semaines. J'espère que c'est correct que je dise ça. Je pense pas que ça les dérange. Puis ils m'ont envoyé leurs déchets. Ils m'ont dit, je comprends pas ce que vous faites, mais ça a l'air cool. On jette pourtant de millions de dollars par année en surplus. Wow. Voici. Puis je leur ai demandé, donnez-moi votre liste de surplus. Puis bon. On s'entend, là. Il y avait de la maillot et des trucs que je pourrais pas réutiliser. Là. Je peux pas prendre ça, mais...
Un jus de maillot. Ah, oh, my God, on a une idée. Là.
Un kombucha au dîner crabe. Mon gars.
Au bon
mais
fromage.
On s'entend, je pourrais... Tu sais, je peux pas tout prendre d'un coup, mais les Goliaths, on a besoin de les utiliser pour les David pour qu'on grossisse. C'est avec eux qu'on grandit, en fait.
Puis ça, c'est un bon point, parce que être un David, c'est pas nécessairement être une compagnie qui se bat contre un géant. Être un David, c'est aussi s'attaquer à un marché qui est énorme, un grand marché. Prenons, tu sais, moi, en génétique, quand je me suis lancé, le marché était énorme, mais il n'y avait pas de Goliath. Il n'y avait personne qui était là. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient juste de voir qui allait percer, qui allait gagner finalement la game de start-up. Puis là, finalement, ils achetaient le gagnant, plutôt que eux de se lancer, prendre le risque de justement que ça prenne 2 ans alors qu'une start-up prend 6 mois. Fait qu'ils laissent tous les nouveaux marchés innovants avoir les startups. Puis là, finalement, ben, c'est winner takes all.
C'est moins cher de faire une acquisition que d'investir en R&D, exact.
Puis on va mettre quelque chose au clair, Pat. Là. Aucun entrepreneur veut être big au Québec. Personne veut être numéro un au Québec. On s'en fout. C'est
pour
petit.
Vrai?
On veut être numéro un au monde.
Oui, mais c'est ça. Mais on veut être numéro un. Ça reste un Goliath quand même, ce rendu-là. Là.
Exact. Puis tu sais, moi, je rebondis beaucoup sur ce que David dit parce que petite startup de mon sous-sol, quand j'ai parti il y a 6 ans, 7 ans, aujourd'hui, on a signé avec Sun Life. Donc, tu sais, la semaine passée, on est rendu, on a un partenariat avec la plus grosse compagnie d'assurance au Canada. Je veux dire, it feels good, hein, s'il vous plaît, là, comme...
c'est sûr. C'est,
comme, de toutes les compagnies en génétique qui ont choisi Biogénique, je suis comme, OK, tu sais, comme, cool. Je me couche, puis on pop le champagne, là, comme... Ouais. Fait que c'est d'être un David, puis de juste, comme... courir après des petits contrats semaine après semaine. Non, c'est comme on veut... Je pense que tout le monde vise à être gros. Là.
Fait que toi, Étienne, un bureau à New York, 73e étage, avec vitrée tout bord, tout côté.
Fuck that, c'est 85e.
Merci beaucoup, les gars.
Merci
Pat.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
dérangeants! C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. Fier d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
Vous avez des questions à la maison? Les dérangeants sont vos VP solutions. Alors aujourd'hui, on a une question de l'entrepreneur Véronique Carignan qui vient de lancer un nouveau projet qui s'appelle Care Enough. C'est non seulement une griffe de vêtements, mais aussi toute une plateforme pour l'affirmation positive, l'empowerment des adolescents. On va tout de suite l'écouter.
Bonjour les dérangeants. Je lance ma nouvelle entreprise Care Enough. Care Enough, c'est une plateforme web dont la mission est d'aider les jeunes à s'affirmer positivement et à avoir plus d'empowerment. On y retrouvera du contenu élaboré par et pour les ados, sous forme d'articles de blog, entrevues, vidéos, un peu à la Urbania. Parmi les façons de monétiser mon projet, il va y avoir un abonnement pour avoir accès à plus de contenu. Avez-vous des conseils sur ce type de modèle d'affaires? Par exemple, est-ce que j'offre déjà 2 prix, 2 offres différentes? Comment m'assurer de partir ça de la bonne façon? Merci!
Alors, donc, pouvez-vous répondre à la question de Véronique? Je vous regarde. Qui va
cool.
Le premier?
Ben, ça devrait être un modèle d'abonnement que les gens ne voient pas passer sur leur carte de crédit. Fait que finalement, ils l'oublient. Puis non, je fais des blagues. c'est une joke. Mais honnêtement, moi, tu sais, d'entrée de jeu, c'est 3 prix tout le temps. Okay. Tu as le prix d'entrée de base, puis aussi le médium, parce que des gens vont toujours prendre la normale, la moyenne. Et finalement, tu as toujours le premium. Donc, tu dois toujours avoir un prix qui va vraiment aller faire ta marge. C'est là que 5 % de ta clientèle va prendre le premium. Mais au moins, il faut qu'il y ait une option que quelqu'un va prendre ça. Fait que moi, pas 2 prix, j'irais vers 3 prix d'entrée de jeu. Okay. Ce qu'on appelle l'effet decoy.
Ouais.
T'as pas de lâcheur, David?
En fait, c'est que ça dépend de la mission. Mais de la mission, si je comprends bien, c'est de toucher le plus de jeunes possible et faire de l'empowerment. Fait que je ferais un prix vraiment pas cher puis je viserais sur le volume. Là. Tu sais, le genre de...
À la Netflix.
Mais c'est parce que tu veux toucher le plus de monde possible, en fait. Fait que si t'as 3 prix, puis t'as un prix qui t'importe plus quelque chose, on dirait que t'as comme moins le droit à l'empowerment. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Tu sais, il y a vraiment une mission derrière ce projet-là, on dirait, là, oui. Il semble-t-il. C'est la mission avant tout, avant le produit. Fait que je ferais un prix vraiment pas cher pour que ça amène tout le monde, tu sais, puis que ça soit même gratuit les 3 premiers mois, là, comme... Il faut, en fait.
Noah, as-tu une troisième solution si tu te ranges vers un des deux?
Non, complètement l'inverse, en fait. J'haïs les abonnements et j'en ai très peu. Mais peut-être quelque chose que vous pouvez faire, c'est de penser à leur faire payer par article qui leur intéresse. Alors, de vraiment avoir des unités par article et dire, moi, article A m'intéresse, alors je vais payer 3 $. Mais je n'ai pas besoin d'acheter article 2 ou 3. Alors, ça donne plus d'options aux lecteurs et aussi ça vous donne plus d'options, plus de capacité de comprendre c'est quoi le meilleur contenu que vous pouvez mettre en ligne.
Donc, d'y aller à l'unité plutôt à l'article, donc plutôt que le whole package.
Exactement. C'est vrai l'unité, article.
Noah, quand même, un bon point, c'est qu'à l'unité, ça se vend mieux sur les réseaux sociaux. Okay. C'est Facebook, tu peux vendre vraiment chaque hit.
Véronique, 3 solutions, donc pour toi, Noah, celle de Noah, celle de David et celle d'Étienne. À toi de choisir celle qui te convient.
C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911.
Bon, ben messieurs, c'est déjà terminé.
Oh, non.
David, David, première
ouais,
expérience.
Je sais pas, il faut que je vous le demande, là, mais j'ai été déviergé, comme on dit. Ça y est, je suis prêt. Je suis rendu un dérangeant.
On va débriefer de ta performance. On te revient.
J'adore ça, t'as mon vote. En tout cas, merci beaucoup à Anthony Vandramme de Poche et Fils. On se retrouve dans 2 semaines, évidemment, pour un nouvel épisode des Dérangeants. Merci beaucoup, tout le monde.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!